22h à Paris, minuit en temps universel. Vous êtes bien à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
Une commission franco-haïtienne d'historiens va se pencher sur la très lourde indemnité financière imposée par la France à Haïti. Annonce du président français Emmanuel Macron ce jeudi lors du bicentenaire de cette dette. Trois villes françaises signent une tribune pour travailler sur leur passé esclavagiste. Pas d'accord sur les droits de douane entre Tokyo et Washington, mais de grands progrès selon Donald Trump. Le Japon, premier pays à négocier directement avec le président américain, réclame une entente au plus vite. Dans ce journal également, Samar Abou Elouf est la première femme photographe palestinienne à remporter le prestigieux prix World Press Photo. Et puis après les inondations meurtrières qui ont tué 33 personnes il y a 3 semaines à Kinshasa, des scientifiques estiment que la capitale de la RDC n'est pas assez adaptée à ce risque. Vous avez les titres, bienvenue. C'était il y a 200 ans. La France imposait à Haïti le paiement d'une énorme indemnité financière en échange de son indépendance. Emmanuel Macron a reconnu ce jeudi l'injustice de cette décision. Le président français a annoncé la création d'une commission mixte entre Paris et Port-au-Prince pour examiner les conséquences de cette décision initiale et proposer des recommandations. Pierre Urmic est le maire écologiste de Bordeaux. Il co-signe ce jeudi dans le journal Le Monde une tribune avec ses collègues de La Rochelle et Nantes. Les trois villes s'engagent à travailler sur leur passé esclavagiste, notamment en direction d'Haïti. Et selon lui, la déclaration d'Emmanuel Macron va dans le bon sens.
Ce sont des mots très forts et je pense qu'ils sont à la hauteur d'une reconnaissance de responsabilité. C'est pour ça que je considère que cette déclaration d'Emmanuel Macron est déjà une avancée significative. Après 2 siècles de silence, la France met sur la scène publique la question de la double dette. Et la commission proposée par Emmanuel Macron, c'est un travail historique. Moi, j'ai tendance à penser qu'elle ne doit pas se contenter de rester dans le registre de l'histoire. Elle doit dépasser ce cadre-là en incluant aussi des approches économiques, juridiques, sociales, culturelles, écologiques pour éclairer les séquelles lourdes qu'Haïti porte aujourd'hui du fait de cette dette injuste.
Une succession de réunions à Paris, américains, européens et ukrainiens se sont retrouvés ce jeudi autour d'une table pour discuter de la fin du conflit en Ukraine. Et ce, au moment où les négociations de cessez-le-feu initiées par Washington piétinent. La présidence française se félicite d'un processus positif et auquel les Européens sont associés. L'Élysée a annoncé une nouvelle réunion la semaine prochaine à Londres. De leur côté, Donald Trump attend une réponse de la Russie cette semaine sur un cessez-le-feu et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé son homologue russe Sergueï Lavrov pour lui faire part des discussions à Paris. Pas d'accord pour l'instant sur les droits de douane entre Tokyo et Washington, mais de grands progrès selon Donald Trump. Le Japon était le premier pays à négocier directement avec le président américain en personne pour tenter d'obtenir la levée des taxes américaines. Le pays est sous la menace de 24% de surtaxes douanières de la part des États-Unis. Une menace en pause pour 3 mois. Justine Fontaine, Tokyo réclame un accord au plus vite.
La rencontre était scrutée par de nombreuses capitales qui cherchent encore à savoir si une négociation est vraiment possible avec Washington et dans quels termes. Japonais et Américains ont convenu de se revoir ce mois-ci et le chef de la délégation nippone, le ministre de la revitalisation économique, a assuré à sa sortie de la réunion avec Donald Trump que les États-Unis veulent aboutir à un compromis d'ici 90 jours. Le Japon a beau être un allié historique des États-Unis et le premier investisseur étranger sur le sol américain, il est malgré tout soumis au même régime que l'essentiel de la planète, 10% de droits de douane pour l'instant sur tous ses produits et 25% de surtaxes douanières sur l'aluminium, l'acier et surtout les voitures, l'automobile qui représente plus d'un quart des exportations japonaises vers les États-Unis. Donald Trump accuse Tokyo de ne pas assez acheter en retour de produits made in USA et il estime que le soutien militaire américain à l'archipel coûte trop cher.
Au Proche-Orient, le Hamas dit qu'il n'acceptera qu'un accord complet avec Israël. L'État hébreu avait proposé une trêve temporaire de 45 jours selon certaines conditions. Dans l'enclave, la situation est toujours aussi dramatique. Mexique. Ce jeudi, au moins 40 Palestiniens sont décédés dans des bombardements israéliens selon les secours. La plupart étaient des déplacés ayant trouvé refuge dans des camps de fortune. Les ONG s'inquiètent et indiquent que l'aide humanitaire à Gaza est menacée d'un effondrement total en raison du blocage de l'aide humanitaire par Israël depuis le 2 mars. Laissez-nous faire notre travail, exhortent les représentants de Médecins du Monde, Oxfam et du Norwegian Refugee Council. La photo d'un enfant palestinien de 9 ans amputé remporte le premier prix du World Press Photo 2025. Samar Abou Elouf est la première femme photographe palestinienne à remporter ce prix. Isabelle Chenu.
Samar Abou Elouf est une photographe autodidacte originaire de la ville de Gaza, évacuée vers Doha en décembre 2023. C'est depuis le Qatar où sont soignés des réfugiés qu'elle va photographier le quotidien de blessés palestiniens. Parmi eux, le jeune Mahmoud, 9 ans. Une explosion lui a arraché les bras. Le World Press Photo a voulu récompenser un travail photographique mais aussi une image qui témoigne pour les générations futures et qui a donné un visage au lourd tribut payé par les enfants palestiniens. En recevant son prix, la photographe a souhaité attirer l'attention sur le sort incertain d'un de ses meilleurs amis blessé après une frappe sur une tente de journalistes à Khan Younes. Près de 200 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023, une hécatombe sans précédent mettant l'enclave palestinienne sous silence médiatique.
Direction le Sénégal où le procureur général Mbacké Fall a annoncé jeudi l'ouverture de poursuites judiciaires contre 5 anciens ministres du régime de Macky Sall. Ils sont impliqués dans la gestion du fonds Covid-19 doté de 700 milliards de francs CFA et dont la Cour des comptes avait épinglé une série de fautes de gestion en décembre 2022. En Côte d'Ivoire, le PDCI a désigné Tidjane Thiam candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025. Selon les résultats provisoires, le leader de ce parti d'opposition a obtenu 99,5% des voix. Le PDCI estime qu'il s'agit d'un plébiscite prouvant qu'il n'y a pas de division au sein du parti. Déclaration du président du comité chargé de cette convention élective. Retour sur les inondations meurtrières qui ont tué 33 personnes au début du mois à Kinshasa. Pourquoi ont-elles été si intenses? Cette fois-ci, les scientifiques de la World Weather Attribution ne sont pas parvenus à déterminer si et dans quelle mesure le réchauffement climatique en était responsable. En revanche, ils en sont sûrs, la capitale de la République démocratique du Congo n'est pas assez adaptée à ce risque. Pauline Berger.
Les fortes pluies responsables des inondations du 4 avril risquent de se reproduire tous les 2 ans, selon Joyce Kimite, co-autrice de l'étude. Il est donc urgent que la ville s'équipe de plus d'outils de surveillance de la météo.
Une des priorités est d'investir dans des stations météorologiques performantes, car on a vu qu'il y avait des trous dans les données mesurées par les stations existantes. Il faut aussi plus de personnel qui les surveille.
Et d'ailleurs, les scientifiques ne peuvent pas déterminer la responsabilité du réchauffement climatique dans les dernières inondations, faute de données. Construction en zone inondable, dégradation des sols à cause de la déforestation, réseau de drainage des eaux inefficace. Kinshasa n'est pas prête à affronter ces inondations, souligne Dieudonné Sadissa Faka, un des auteurs.
Nous n'avons pas une gestion rationnelle de l'espace en termes d'affectation des sols, en termes d'urbanisme. Nous devons revenir à prendre la science comme l'outil de la prise des décisions.
Décisions qui devront prendre en compte la croissance démographique rapide de la RDC, rappellent les scientifiques. Le nombre d'habitants de Kinshasa, 18 millions aujourd'hui, devrait doubler d'ici 20 ans.
L'Algérie et la Mauritanie renforcent leur coopération dans le domaine de la défense. Le ministre mauritanien de la Défense, Anana Ould Sidi, a entamé mardi une visite officielle de 4 jours en Algérie. Il est accompagné d'une délégation militaire de haut rang, précise l'agence mauritanienne d'information. Selon cette même agence, 2 accords ont été signés dans le domaine de la défense et de la protection des informations classifiées. Et puis en football, quart de finale, retour de Ligue Europa. Un match a coupé le souffle entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United. Les Lyonnais gagnaient 4-2 en prolongation et perdent 5-4 dans les dernières minutes. De son côté, Tottenham passe en demi après une victoire 1-0 contre Francfort. Autre qualifié, l'Athletic Bilbao et le Bodo Glimt